Fuck the Platforms Movement. Ça pourrait être un bon nom de collectif, ça, tiens. C'est le nom qu'on a choisi pour ce temps d'échange dédié à la critique des plateformes de streaming, Spotify, Deezer et toutes les autres. Pour parler de ça, on est avec Ben de RCV par téléphone. Ben, il paraît qu'on doit te donner une fessée, il paraît que c'est pas un fixe.
Exactement, c'est pas un fixe.
Oh là là.
Je veux pas trahir. Non, c'est vrai, je t'entendais dire ça justement avant de passer ce magnifique morceau de DJ Shadow que j'adore. Non, je suis pas sur fixe, désolé.
Bon, bah tu auras droit à une fessée la prochaine fois qu'on te verra. Alors Ben, pour te présenter, tu es salarié et tu coordonnes l'antenne de la radio associative lilloise, pardon, qui est une radio Ferraroc aussi et qui émet sur le 99 FM à Lille. Elle s'appelle RCV. Tu es aussi DJ dans des styles drum, de basse et basse music.
Ouais, c'est ça. Je suis chez RCV 99 FM depuis 20 ans maintenant. Et puis après, DJ, je me suis pas mal diversifié. C'est vrai que je faisais beaucoup de drum and bass à l'époque, mais voilà, ça change. Là, je vais bientôt faire une soirée consacrée aux 40 ans de l'album Purple Rain de Prince. Tu vois, donc j'ai rien à voir aujourd'hui. Mais...
En effet. On est aussi en studio avec Nico de PFM. Salut Nico.
Salut.
Salarié donc de PFM, je viens de le dire, programmateur, animateur, journaliste radio. D'ailleurs, je crois que vous étiez tous les deux au lycée ensemble.
Absolument, c'est vrai. À l'époque du courant grunge, donc ça va, c'était pas la pire époque pour être au lycée.
Ouais, au lycée Gambetta, hein, on pense à eux quand même. Ouais. C'est un lycée aussi, un petit mot là-dessus, c'est qui nous a laissé aussi la possibilité, par exemple au groupe de musique de répéter, il y avait un local musique, donc il y avait plein de gens qui avaient tous à peu près les mêmes t-shirts de PFM, et c'est aussi à partir de ça que beaucoup de trajectoires se sont dessinées.
Alors justement, puisqu'on parle du passé et afin de situer vos points de vue respectifs, est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers souvenirs de musique ? Sur quel support, par exemple, vous avez commencé à écouter de la musique ?
Vas-y Nico, commence.
Alors moi, quand j'étais vraiment tout minot, j'avais déjà un magnétophone cassette sur lequel j'enregistrais des sketchs pas forcément trop drôles. Je faisais déjà un peu du bidouillage vite fait, quoi. Après, années 80-90, c'était vraiment, il y avait beaucoup de cassettes. J'enregistrais la radio sur mon truc cassette. C'était le début. Enfin, il y avait le CD aussi qui arrivait. Je commençais une petite collection de CD. Après, il y a eu les CD gravés. Il y a les vinyles qui étaient toujours là. Bah, mes darons, ils avaient une petite collection un peu françoisière de vinyles, des trucs comme ça. Et après, quand je suis arrivé à la radio, il y avait pas mal de cassettes, les mini-disques, le MP3 arrivé. Et maintenant, je fais beaucoup de trucs sur le numérique, beaucoup de peer-to-peer, sous le SIC, tout ça. J'essaie d'avoir un disque dur encyclopédique. Et quand je peux et quand j'ai assez d'argent à la fin du mois, j'essaie d'acheter quelques vinyles, voilà.
Ouais, moi je vais pas refaire tout le déroulé parce que c'est vrai qu'on a à peu près le même parcours, hein, on est de la même génération, Nico, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, mais c'est vrai que quand j'étais gamin, dans les années 80, mes parents nous avaient acheté, à moi et mes frères, un manche-disque, je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'était un lecteur de disque 45 tours avec une enceinte intégrée, il y avait juste une fente pour serrer le disque et ça lisait le disque tout seul. Moi, mes premiers souvenirs en fait c'était ça, après c'était beaucoup les cassettes audio, c'est vrai... Le premier album qu'on m'a offert en cassette audio, c'est mes parents qui m'avaient offert ça quand l'album Bad de Michael Jackson est sorti. Et puis après, mon cousin Vincent, je ne sais pas s'il nous écoute, il habite à Lingille, donc peut-être qu'il nous écoute. Voilà, c'est lui aussi qui m'a fait découvrir la culture CD, on va dire, parce qu'il avait une CD tech hallucinante. Ouais, après, je sais que moi, dans les booms du collège, j'étais déjà le DJ un peu, donc je crois que je me destinais aussi à être prescripteur et à vouloir faire écouter de la musique aux gens, les faire danser. Voilà comment je consommais la musique sur toutes ces différentes périodes, quoi. Je suis toujours un gros acheteur de vinyle, acheteur un peu compulsif en ce moment, mais ce matin, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter deux vinyles à la braderie d'Oisem, par exemple. Voilà.
Alors du coup, ces découvertes, elles passaient aussi par d'autres supports, d'autres comment dire, d'autres moyens? Vous alliez dans les bars aussi, écouter des concerts? Vous alliez chez le disquaire? Ou c'était vraiment beaucoup de bouche à oreille en plus, avec le cousin, entre autres, Ben?
Ouais, c'était ça. Mais c'était aussi beaucoup... j'ai beaucoup de souvenirs de la cour du lycée Gambetta où on se faisait tourner des cassettes audio, les albums que les uns achetaient en CD, on les copiait en cassette pour les potes, quoi. C'est moi, comme ça que j'ai découvert pas mal de trucs, genre Jeff Buckley, Neil Young, que je connaissais pas, c'est mon pote Laurent qui m'a fait découvrir ça au lycée Gambetta sur une cassette. Ouais, c'était beaucoup ça, en fait. C'était pas que du bouche à oreille, on se transmettait aussi un objet, quoi.
Ouais, moi, il y a ma sœur qui a joué un rôle important parce qu'elle était plus âgée, elle écoutait déjà pas mal de musique. Il y avait mon daron aussi qui écoutait dans la voiture. On faisait des longs voyages et du coup on écoutait beaucoup de musique comme ça. C'était un peu la bataille pour accéder aux radiocassettes et qui allait passer sa cassette. Après, dans les cours de récré, les échanges, les disquaires, il y avait à l'époque, il y avait le micro-sillon à Arras, hein, que j'ai pas mal poncé. Il y avait aussi des bandes d'écoute. Il y avait les médiathèques. Les médiathèques, à l'époque, les gens allaient dans les médiathèques, les discothèques pour emprunter des CD. Voilà, c'est un peu. Maintenant, ça existe encore, mais les gens n'y vont plus trop. Il y avait, moi, je suis pas trop voleur, mais j'avais des copains qui allaient voler aux nouvelles galeries. Hein, Camille, si tu nous écoutes, je te dénonce. Après, il y avait la radio aussi. C'est vrai qu'au lycée, j'ai découvert par l'intermédiaire de ma sœur Radio PFM. Donc là, j'écoutais plein de musiques différentes. On a essayé de s'incruster au début sur des émissions avec plus ou moins de succès. Donc ça, c'était aussi des lieux d'échange. Et puis maintenant, c'est devenu un peu central parce que la radio, il y avait une discothèque à la radio qui était gérée par des bénévoles. Donc, il y avait plein de CD à écouter. Il y avait aussi la possibilité d'avoir de la musique gratuitement. Parce qu'à l'époque, quand même, la plupart des trucs étaient payants, sauf si tu copiais ou tu copiais sur des cassettes. Mais il fallait quand même avoir un budget pour ça, où vous vous débrouillez. Et puis donc à la radio, tu pouvais appeler les maisons de disques pour qu'ils t'envoient gratos la musique. Ça, c'était vraiment une des nombreuses bonnes raisons de venir squatter ici à PFM.
Après, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait aussi dans les médias, étant donné que le rock était encore vachement à la mode, le rap, c'était encore un truc un peu souterrain. Des grosses chaînes comme MC, par exemple, qui diffusaient des clips toute la nuit. C'est vrai que je me souviens aussi, au foyer du lycée Gambetta, certains revenaient avec des cassettes vidéo de clips qu'ils avaient enregistrés sur MTV ou sur M6. Et on regardait ça tous ensemble entre midi et deux. Puis les grosses radios comme Fun Radio Rock, à l'époque, diffusaient aussi du rock, du grunge, du hard rock, du metal. C'était une autre époque, hein.
Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, ils diffusaient des clips, et des clips bien, quoi. Je veux dire, le soir, la nuit, il y avait Best of Trash, Best of Rap. Ils avaient confié, parce qu'ils ne savaient pas le faire, donc ils avaient confié la programmation. Par exemple, je me souviens, il y avait une soirée Best of Rap, c'était NTM qui avait fait toute la programmation des clips passés sur M6. C'était peut-être différent à l'époque, voilà, il y avait cette petite fenêtre-là qui s'était ouverte à cette époque-là, ouais.
Alors ma question aussi, parce que maintenant, à la radio, on utilise certes des platines, on utilise platine CD, platine vinyle, mais on utilise aussi maintenant beaucoup de MP3. Alors, est-ce que vous vous êtes convertis aux plateformes, les garçons?
Je vais répondre en premier, Nico, si tu veux bien. Je peux pas vraiment dire que je sois converti. Après, force est de constater que je les utilise quotidiennement pour le boulot. Déjà, rien que pour une chose, je fais la programmation musicale à RTV 99 FM. Donc, on est sollicité par toutes les maisons de disques, les artistes, les attachés de presse qui nous envoient dans notre boîte mail des tonnes de liens avec de la musique à écouter. Et évidemment, ces liens, souvent, c'est des liens YouTube, des liens Spotify, Deezer, des Google Drive, des trucs comme ça. Donc, parce que même si je voulais pas les utiliser, mon boulot fait que je n'ai pas le choix. Pendant des années, j'utilisais YouTube en disant fuck les plateformes, parce que je pensais que c'était totalement différent de Spotify et Deezer. Mais en vrai, c'est exactement la même chose. On est soumis aux algorithmes exactement de la même façon. Donc je suis pas converti, mais utilisateur un peu forcé, quoi.
Alors Ben, on me dit en technique, est-ce que tu peux parler bien près ton... Je sais pas si tu as le haut-parleur allumé ou on entend un petit effet Larsen sur ta voix.
Ok, c'est mieux là.
Ouais, je pense que ça sera mieux.
Cool.
Moi je fais la différence entre MP3 et plateforme. Là, on parle pas du tout de la même chose à la base. Il me semble, c'est pas la même démarche, je pense. Après, moi je dirais que je suis radicalement anti-plateforme. Déjà, je suis resté un peu dans l'esprit de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire pirate. Les peer-to-peer, télécharger de la musique, l'avoir en vrai sur mon ordinateur, des choses comme ça, parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup des MP3, des WAV, des FLAC éventuellement, quoi, pour fabriquer mes émissions de radio. C'est vrai que c'est beaucoup plus, ça peut être beaucoup plus pratique, même si j'essaie aussi de laisser une place à d'autres supports, quoi. Et on parlera, je pense, après de tout ce que ça, toutes les conséquences un peu que ça peut avoir, les plateformes, les Spotify, les Deezer, etc. En termes de redistribution d'argent, en termes d'écologie, en termes de plein de trucs. Mais moi, le truc qui m'a vraiment, radicalisé peut-être dans mon attitude, dans ma posture anti-plateforme, c'est de voir mon ancien collègue Bernard. Bernard, qui a le matin, tu vois, à PFM, on a quand même plein de disques qui arrivent, on a plein de trucs autour de nous, on a plein de MP3 qui arrivent aussi sur la boîte mail. Lui, mais pas que lui, hein, je veux dire, c'est pas pour le cibler lui, je veux dire, la plupart des gens font ça. Ils allument Spotify et ils regardent ce qu'il y a dans la playlist qu'il aurait proposée. Et ça, cette attitude-là, elle me dit, je pense qu'on a perdu, un truc, on a perdu plein, notamment cette recherche, cette curiosité, pour moi, j'assimile ça un peu à la paresse intellectuelle, mais qu'on a tous en fréquentant en fait des différentes plateformes, différents réseaux sociaux aussi. C'est que cette démarche de recherche, parce qu'on n'a plus le temps, on la fait plus, et d'autres personnes la font pour nous. Et après, la question, c'est qui le fait, comment, pourquoi.
Alors, je te rejoins sur l'essentiel de ce que tu dis, Nico. Après, je voudrais quand même revenir sur une chose. Je trouve qu'en termes de redistribution, le peer-to-peer, c'est pas terrible quand même, ni pour les artistes, ni pour l'industrie musicale en général. Du coup, je t'entends parler de ça comme si c'était un truc vertueux. Je sais pas comment tu vois ça, toi, le fait de télécharger beaucoup de musique en peer-to-peer sans rémunérer les artistes et les gens qui ont bossé dessus.
Ouais, ça c'est clair, c'est 0€. Après, par exemple, moi je suis sur Soulseek. Alors Soulseek, je pense qu'ils gagnent pas d'argent avec ce qu'ils font. Donc déjà, il y a ce truc-là. Après, c'est vrai que à l'époque, quand tu copies un CD, quand tu files une cassette dans la cour de récré aux gens, c'est pareil, la redistribution, elle est nulle au niveau budgétaire. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la musique, c'est fait pour gagner de l'argent? Est-ce que le but de jouer au foot, est-ce que le but de faire ce qu'on fait comme activité humaine, ça doit être orienté vers le fait de faire de l'argent? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Après, l'argent que je dépense pas en téléchargeant, peut-être que je vais la dépenser en achetant des billets de concert, peut-être que je vais l'acheter, je vais le dépenser en achetant les vinyles, des trucs que j'aime beaucoup. Après, je veux dire, si je devais acheter concrètement toute la musique que j'écoute, je serais ruiné, ou j'écouterais beaucoup beaucoup moins de musique. Enfin, ça serait pas possible, quoi. Et après, on peut discuter aussi d'autres manières de faire, sur des formules. Je sais pas, quand tu vas à la bibliothèque, tu payes pas d'argent. Tout le monde trouverait ça honteux que on paye pour accéder à une bibliothèque. Et il y a un autre système derrière, hein, quand on emprunte. Je pense qu'il y a un système de redistribution aussi. De droit qu'il y a aux bibliothèques, je connais pas très bien, hein, mais ce qu'il faut dire aussi, hein, c'est que là, tout ce que je dis, moi j'ai pas passé des heures à lire tous les bouquins sur le streaming et la redistribution et tout ça. Je vous donne un point de vue de quelqu'un qui, d'un programmateur radio, de quelqu'un qui est fan de musique, et puis peut-être qu'il sera différent. On n'a pas réussi à avoir d'artistes dans cette table ronde, mais peut-être qu'ils auront d'autres points de vue sur ces questions-là, quoi.
C'est sûr que Après, tu vois, du point de vue du consommateur, je peux dire que c'était un peu un rêve de gosse que de pouvoir avoir accès à toute la musique du monde, en plus, pour trois fois rien. Pour reconnaître que pour le consommateur, c'est intéressant. Je sais pas combien coûte un abonnement Deezer ou Spotify, mais comme tu disais, si tu voulais acheter toute la musique que tu possèdes aujourd'hui, ce serait tout simplement pas possible. Pour les artistes, évidemment que les plateformes, c'est intéressant. On va pas se mentir, je pense que tous les artistes sont satisfaits du fait de pouvoir être écoutés partout dans le monde par n'importe qui.
Bah moi, je suis pas trop d'accord. Déjà, je trouve que c'est une illusion de dire que toute la musique du monde est sur Spotify ou Deezer, quoi. Il y a quand même des gens qui refusent ce système-là. Et après, tout le monde est content, bah faut voir un peu la redistribution, quoi. Je sais plus. Alors je crois que un stream, c'est $0,00038. Donc faut quand même sur Spotify. Voilà, ça donne un peu l'idée du truc. Est-ce que tout le monde est content de ça? Là, faudrait voir un peu les chiffres. Combien de gens gagnent vraiment de l'argent sur Spotify, Deezer? Je pense que là, c'est les 0,8%, enfin le 1% les plus écoutés, eux, ils sont super contents. Mais les 99,9%. Autres pourcents, non, 99%, pardon. Ça, c'est PFM, c'est RCV. Bon. Je suis pas sûr qu'ils soient si satisfaits de ça.
Non, c'est sûr, niveau rémunération, c'est un sujet dont je discute souvent avec les artistes que je reçois en interview à la radio. Et c'est vrai qu'il y avait un groupe de métal du Nord assez connu que je ne citerai pas. C'était l'année dernière, ils m'expliquaient qu'ils avaient 1 million de streams. Ils avaient passé le million de streams, ils avaient touché un chèque de 1 200 €. C'est-à-dire pas 1 200 € par musicien, 1 200 € pour tout le groupe, pour 1 million de streams, qui est quand même assez ridicule.
Bon, on reparlera de ce modèle économique après. Je crois que Nico nous avait préparé un petit extrait, mais on l'écoutera après. Et c'est intéressant parce que vous parliez de téléchargement, vous parliez de streaming, et à ses débuts, celui-ci était présenté comme une solution face au piratage. Et on va vous proposer un extrait d'un entretien avec l'activiste musicale aragoise DJ Carole qui en parle justement.
Alors d'abord, leçon première, si vous avez un disquaire chez vous, pas loin de chez vous, allez le voir parce qu'il va vous faire découvrir des choses. Hein. Il va vous parler de ses découvertes et c'est un contact humain et voilà, c'est irremplaçable. Les plateformes... Ça joue un rôle et pas forcément le bon rôle pour la rétribution des droits de diffusion pour les artistes. Et fuyez les plateformes qui rémunèrent pas les artistes comme il faut. Donc allez plutôt sur Bandcamp. Et là, vous allez avoir des milliards et des milliards de sons triés en fonction de vos goûts musicaux. Alors oui, forcément. Il faut fouiller par soi-même, c'est moins facile que se brancher sur Spotify et faire confiance à son algorithme. Bon, je pense que ça a son utilité aussi, mais bon, au fur et à mesure, oui, le respect au moins pour les gens qui ont bossé et qui créent tous les jours et qui sont rémunérés moins que rien. Donc, pour moi, c'est pas le top, quoi.
Alors ça rejoint un petit peu ce que vous disiez juste avant les garçons, mais j'ai une question, est-ce que vous avez l'impression qu'en passant par ces plateformes de streaming, les gens ont plutôt tendance à écouter tout le temps la même musique, plutôt que quand ils devaient chercher par eux-mêmes et fouiller un petit peu pour trouver d'autres styles, d'autres groupes? Est-ce que c'est les algorithmes qui les entraînent plutôt tout le temps vers la même bulle, avec les mêmes groupes tout le temps?
Clairement, les algorithmes, moi, je trouve que ça tue un peu la curiosité. C'est ce que disait Carole. Plus personne ne se donne le courage de diguer. C'est ce que tu disais, Nico, aussi au tout début. Il y a une flemme intellectuelle là-dedans. Après, je ne suis pas à la place des gens. Je ne sais pas comment ils éduquent leurs algorithmes. Il paraît qu'un algorithme, ça s'éduque. Possiblement, je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui enferme les gens dans une bulle. Puis dans l'intérêt aussi de la plateforme, de toujours aller te nourrir avec de la musique que tu aimes et qui te rassure, pas prendre de risques pour que du coup tu puisses renouveler ton abonnement tous les mois parce que tu continues à être alimenté dans un truc conforme dans tes goûts. Ouais, évidemment, moi je pense que c'est un truc de ça. Ouais.
Après, même Spotify, enfin, les plateformes de streaming, elles en sont conscientes de ça, donc elles essaient de corriger le tir. Et après aussi, on parle d'algorithmes, mais aussi il y a quand même aussi un enjeu des maisons disques, hein, qui achètent en fait un placement de produit, enfin pas, c'est pas le mot placement de produit, c'est-à-dire qu'ils ils payent pour que leur titre soit écouté dans telle ou telle playlist ou voilà, soit plus souvent proposé aux auditeurs qui écoutent ce style de musique. Donc là, il y a aussi une illusion, on fait croire en fait aux utilisateurs que la plateforme va leur conseiller selon ce qu'ils écoutent des choses, mais il y a quand même une orientation qui est gérée aussi par l'argent, quoi, comme ce qui pouvait se passer, comme ce qui peut se passer dans un supermarché où les commerciaux ils viennent placer leurs produits en tête de gondole ou plus ou moins haut sur l'étagère pour que celui qui achète un cornichon, bah, il soit il achète plutôt telle marque que telle marque. Enfin, il y a ce truc là aussi, je pense. Et après les gens disent ça dépend un peu de comment tu utilises ton outil. Si tu l'utilises bien, enfin, je suis sûr qu'il y a des diggers de Deezer et de Spotify, peut-être que ça existe, c'est des gens qui poncent le truc et qui découvrent plein de trucs, je suis sûr qu'il y a ça, mais quand même, il y a deux choses intéressantes dans ce que Carole dit, je pense, c'est que il y a le contact direct avec les gens. Voilà, ça c'est quand même la base du truc, je trouve, quoi. Et puis il y a aussi le fait que toutes les plateformes ne se valent pas et que Bandcamp, qui est cité par Carole comme plus exemplaire, bah ouais, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose du tout que Spotify ou Deezer, quoi. Je suis désolé. Et d'ailleurs tu le vois, parce que les groupes les plus engagés politiquement, qui ont un peu réfléchi, les groupes punk, etc., et ben ils vont sur Bandcamp vendre leurs trucs proposer leur truc. Il y en a qui mettent en truc gratuit, tu as le choix d'associer à une mailing list ou pas. Enfin, il y a quand même plus de liberté, je pense, en tant qu'utilisateur sur Bandcamp que sur Spotify ou Deezer, quoi, je trouve.
On vient de parler beaucoup de l'écoute, du rapport à l'écoute aussi avec ces plateformes de streaming. Est-ce qu'il y a des implications au niveau du partage ? Comment on partage la musique ? Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire d'Arte Radio, « Comment le streaming a mangé la musique ?» Et après, on en débat.
Grâce aux playlists, Spotify, SoundCloud, Deezer et compagnie deviennent des médias, des voix puissantes qui orientent les écoutes de leurs auditeurs. Chacun, chacune, nous sommes désormais suivis dans nos moindres mouvements en ligne par des plateformes qui essayent de comprendre nos envies au bon moment. Envie de découverte ou d'un bon vieux classique, envie d'une musique confortable pour un dîner ou de quelque chose de dynamique pour faire du sport, une gigantesque chasse à la donnée personnelle est lancée avec un seul but, contenter chaque utilisateur pour qu'il reste abonné.
Et là, c'est, je pense, aussi l'autre révolution du streaming. L'arrivée de l'utilisateur dans la façon dont on va lui proposer de la musique. Parce que jusqu'ici, depuis quasiment toujours dans l'industrie musicale, l'utilisateur n'avait pas son mot à dire. Ce sont des maisons de disques, des labels, des directeurs artistiques, des radios, des magasins qui décident de la musique qui est produite et qui est distribuée. Alors au pire, ça plaît pas, ça vend pas. Ce qui plaît, vend. Mais il y a peut-être quelque chose qui aurait plu, on le saura jamais. Parce que ça n'a pas existé. Et là où ça change, c'est que tout d'un coup, l'utilisateur a son mot à dire. Et que de plus en plus, avec l'usage du streaming, on parle de data, c'est-à-dire qu'on va avoir des données d'écoute, on va voir que tel genre va remonter, que tel artiste, que sur tel album, c'est telle chanson qui est plus écoutée qu'une autre. En effet, le concept de compilation, de playlist va revenir fortement, et on va commencer à utiliser les données d'écoute de nos utilisateurs pour leur faire des propositions plus fines.
Ce système de recommandation repose d'un côté sur des playlists faites par des humains au sein des plateformes, à la façon des programmateurs des radios. Puis il y a les recommandations automatisées, proposées par un système algorithmique qui donne un pouvoir énorme aux plateformes pour orienter nos écoutes. Peu à peu, nous avons confié nos vies musicales à des machines qui décident en bonne partie ce que nous allons écouter.
L'algorithme, aujourd'hui, c'est un peu le bon ennemi. Les algorithmes, d'abord, ils sont fabriqués par des humains. Donc, c'est des outils de programmation, c'est de la statistique. Et dans le cas de la musique et dans le cas de Spotify, si on enferme nos utilisateurs dans une chambre d'écho, comme on dit, et qu'on leur propose toujours la même chose, on ne va pas les garder longtemps. Donc, pour nous, il est essentiel, déjà très tôt, de proposer de la découverte. Une des plus belles émotions de la musique, c'est de découvrir quelque chose.
Les plateformes de streaming sont désormais au cœur de nos écoutes. Depuis la fin des années 2010, elles ont littéralement avalé la musique et renvoyé le MP3 et le téléchargement, légal ou illégal, dans un recoin de l'histoire. La crise s'efface, l'argent a fait son retour comme jamais depuis la fin de l'âge d'or du CD. Apple, Amazon et Google ont rejoint les pionniers Deezer et Spotify, et ces entreprises du numérique ont capté les écoutes de centaines de millions de personnes à travers le monde. C'est un vrai oligopole qui va avec de grandes responsabilités. De vastes questions qui sont adressées aujourd'hui aux plateformes de streaming. Sur la transparence de leur système de recommandation par algorithme, sur la qualité du son, sur la consommation énergétique du streaming, mais surtout sur la rémunération des artistes.
Alors, est-ce que vous voulez réagir à cet extrait ?
Ben ?
Ouais, bien sûr. Il y a énormément de choses qui sont dites là-dedans, qui sont intéressantes. Ça se termine notamment sur la question écologique de la consommation de la musique aujourd'hui, puisque toutes ces musiques sont stockées sur des serveurs qui sont évidemment énergivores. Alors après, on peut pas dire non plus que le CD, c'était un support hyper vertueux, écologiquement parlant. Mais les plateformes, c'est environ 130 000 morceaux qui sortent chaque jour, dont un tiers ne seront jamais écoutés, mais qui sont quand même stockés sur des serveurs. Donc ouais, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. On est soumis à tellement de musique, même aujourd'hui, je parle pas, personne peut écouter les 130 000 morceaux qui sortent chaque jour, mais on en écoute quand même de plus en plus. Et plus on en écoute, moins on la mémorise, plus on la consomme de manière périssable. Moi, il m'arrive des fois de me surprendre à pas me souvenir d'un truc que j'ai écouté il y a 6 mois, alors que quand j'étais gamin et que j'achetais mes CD, je savais exactement ce que j'avais dans la discothèque, je connaissais toute ma musique par cœur. Je vais même vous raconter une anecdote, parce que quand j'ai commencé à mixer de la drum and bass, à l'époque, on mixait qu'en vinyle. On pouvait pas mixer avec des CD, on pouvait pas mixer. Et je sais que n'importe lequel de mes vinyles, il savait que je le mette sur ma platine, rien qu'à voir le macaron. Je me souvenais de la ligne de basse, je me souvenais des détails de la musique. Aujourd'hui, quand je vais diguer aussi bien dans mes fichiers MP3 que même sur les plateformes, des fois, faire défiler les noms comme ça, ça me rappelle plus rien. Mon cerveau peut pas encaisser tout ça, en fait, toutes ces informations, toute cette culture, tout ça. Voilà, Nico, vas-y, réagis, toi.
D'accord. D'abord sur le documentaire. Bon, j'étais super content que Arte fasse un documentaire sur cette question, parce qu'en fait, et c'est aussi pour ça qu'on est là dans ce débat, c'est qu'il y a personne qui en parle. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose comme ressource là-dessus. C'est pas un sujet de débat dans la société. Ça y est, c'est comme ça. Donc, il faut faire comme ci, comme ça. Donc, j'étais content que Arte le fasse. Mais par contre, alors il y a plein de choses intéressantes dans le documentaire. Et j'invite les gens à le voir en ligne, c'est sur YouTube. Franchement, la fin et tout ça, c'est vraiment horrible, quoi. Enfin, moi, j'étais vraiment, vraiment déçu par ce documentaire, parce qu'à la fin, c'est finalement, ah ouais, regardez, c'est grâce aux plateformes de streaming, et c'est grâce à Spotify que la musique africaine perce au niveau mondial. Je veux dire, ok, allô les gars, c'est pas grâce à ça. Je veux dire, c'est Internet, mais c'est pas les trucs de Spotify qui ont fait ça. Et pareil, dans l'argument, regardez, il y a plein de trucs qui ont percé, qui n'auraient jamais percé s'il n'y avait pas eu les plateformes. Je suis désolé. Enfin, ça, c'est Internet, c'est pas les plateformes, c'est pas cette organisation-là de la distribution de la musique. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Enfin, il aurait pu y avoir d'autres trucs. Enfin, par exemple, quand Internet est arrivé, et donc forcément ça a changé les choses au niveau de la musique, les gens avant Spotify, avant Deezer, avant même la première, là, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui a flopé un moment là.
Il y avait MySpace.
Voilà, MySpace, avant MySpace même. Les gens, en fait, fabriquaient leur propre site Internet. Et déjà, c'était plus intéressant parce qu'il y avait aussi un côté artistique dans les projets des gens. Donc, les groupes fabriquaient par eux-mêmes leur, leur site Internet avec voilà, de l'art numérique, avec plein de choses. Et après, comme peut-être donc les gens sont arrivés avec un modèle, voilà, c'est comme ça, il y a ce cadre-là où le lecteur, il est forcément là et tout ça. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour les consommateurs en fait, mais voilà, on a perdu tout ce, cet aspect de création numérique pour les gens où il y a juste en fait une pochette à faire et puis c'est tout, le livret, tout ça, c'est un peu sorti de l'usage quoi. Donc ça c'est ouais, je regrettais un peu ça quoi.
Nico, si je dis pas de bêtises, tu es arrivé à PFM aussi pour proposer la musique que tu avais envie de faire découvrir à plein de gens, pour partager ta musique aussi. Mmh. C'est ça, je dis pas de bêtises?
Ouais, ouais, carrément.
Ben, je pense que c'est aussi un petit peu ça sur RCV.
C'est clair.
Du coup, on va parler un petit peu de nos radios asso, parce que en étant anti-plateforme, vous défendez un petit peu votre beefsteak, non? Est-ce que Spotify n'a pas pris le rôle des radios associatives, en fait, en termes de propositions musicales?
Oui. Vas-y, Nico, vas-y, si tu veux réagir.
Oui, bah, c'est un peu la deuxième partie de, du discours là, qu'on a entendu dans... Dans le document, l'extrait, il parle aussi de la prescription. Alors, le rôle des radios asso, bon, c'est peut-être un peu... je veux dire, on n'était pas non plus les prescripteurs numéro 1 en France, quoi, enfin, je pense. Mais il y a toute cette partie, effectivement. Moi, je trouve que depuis que, enfin, il y a ça, depuis qu'il y a Spotify, tout ça, il y a quand même un affaiblissement de la critique et du journalisme musical de manière générale. Avant, il y avait quand même une presse forte. Tout le monde lisait, alors peut-être pas les Un Rock, mais il y avait Rock and Folk, enfin il y avait aussi une presse hip-hop qui a complètement, mais alors là, complètement disparu. Il y avait aussi au début d'Internet, il y avait pas mal de fanzines, enfin il y a des fanzines qui sont allés sur Internet, il y avait voilà, des gens, et ça, bon, il y a encore hein, quelques trucs et tout qui existent, mais ça, c'est beaucoup plus faible et tout, c'est quand même un peu. Un peu pourri. Donc il y a ce, ce contenu qui pour moi c'est affaibli. Et après donc effectivement les gens confient leurs oreilles à des algorithmes et donc en fait finalement la question c'est est-ce qu'on s'est pas fait ubériser sans qu'on s'en rende compte quoi en fait. C'est que bah, je me mets à la place d'un gars qui a 15 ou 16 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il va écouter la radio associative près de chez lui ou est-ce qu'il va aller sur les plateformes? Je pense que la question, elle se pose même pas pour lui, quoi, tu vois. Enfin, donc, ouais, c'est un peu dommage. Et du coup, en fait, sans s'en rendre compte, cette personne-là, eh ben, y a un lien social, un chemin qui pour moi, ne se fait pas, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Après, pour revenir sur la question du prescripteur, c'est vrai que maintenant, les plateformes sont plus prescriptives que nous, les radios associatives. C'est vrai qu'on avait déjà pas beaucoup de poids dans l'industrie musicale auparavant. Maintenant, c'est encore pire. Après, on propose aussi des choses de manière différente. On est prescripteur de musique, mais on est aussi des voix qui parlent à l'antenne. Moi, je sais que si je continue à écouter la radio, c'est aussi parce que j'ai envie, quand je suis tout seul chez moi, d'avoir l'impression d'être avec quelqu'un qui... comme si j'étais avec un pote à l'apéro qui me disait « Tiens, vas-y, écoute ça. Bah, » Cette sensation-là, ce truc humain-là, il n'existe pas avec les plateformes. Et bon, ouais, ouais, ça se perd. Spotify, les plateformes, Deezer déshumanisent la transmission de la musique, quoi.
Après, je crois qu'ils en sont conscients aussi et que justement, ils essaient de lutter contre ça en proposant eux-mêmes du contenu. C'est-à-dire que bah voilà, ils ont payé des journalistes pour faire ça. Donc ça, quelque part, ça va encore plus faire un système de monopole où le diffuseur, le vendeur et le prescripteur, celui qui fait office de journalisme radio, bah, ça appartiendra au même truc. Après, il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé. Et je crois que c'est Libé qui a fait un papier là-dessus, c'est sur le contrôle du contenu. Parce qu'en fait, comme c'est des machines, donc les gens mettent leur son, mais aussi leur podcast, tout ça, et ben ils ont aucun contrôle. Et d'ailleurs, ils ont été épinglés parce que voilà, il y a des podcasts fascistes, néo-nazis qui se sont retrouvés sur ces plateformes-là. Et voilà, comment ils ont pas su réagir en fait par rapport à ça, quoi. Et après aussi, je sais pas si à RCV il y a cette discussion. Enfin, nous à PFM, on n'a jamais vraiment eu cette discussion franche à la radio sur quelle position on a par rapport à ça, tu vois. Il y a des gens, bah, tu vois, bah, mon collègue Bernard, il écoute Spotify, d'autres gens peuvent pratiquer. Il y avait des gens qui voulaient qu'on achète, qu'on s'abonne en tant que radio à Spotify. Il y a des gens qui voudraient qu'on mette nos sons sur Spotify, etc., quoi. Je sais pas si vous avez eu cette... Alors qu'on a un site internet, je veux dire, on est notre propre plateforme, en fait. Mais non, il faudrait aller sur une autre plateforme qui est détenue par des actionnaires, voilà, et tout ça, pour se faire écouter. Après, cette question-là, elle se pose aussi sur... est-ce que tu vas sur tel ou tel réseau social, quoi, tu vois. Bon, c'est vrai que nous, par exemple, on est sur Facebook. Bah, pourquoi on y est ? Pourquoi on refuserait pas, quoi ? Enfin, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, quoi.
Ouais, bien sûr. Alors nous, à RCV, à Lille, c'est vrai qu'on est depuis un an à peu près maintenant. On a donné la possibilité à nos émissions, parce que si tu veux, chez nous, c'est géré de manière autonome. Chaque émission gère ses propres podcasts. Donc chaque émission doit s'enregistrer et doit publier son truc. Nous, on met l'outil à disposition. À l'époque, c'était uniquement sur notre site web qu'on hébergeait les émissions. Et puis, on a dû changer d'outil pour des raisons économiques. Et là, on est sur un outil qui nous propose de diffuser aussi sur toutes les plateformes de streaming. Et force est de constater que la plupart des émissions le font, parce que chez nous, il y a aussi des animateurs qui utilisent ces plateformes-là, qui écoutent des émissions de radio via ces plateformes-là, des podcasts, et pas que des playlists et de la musique. Donc, en tant qu'utilisateurs, ils voulaient aussi que leurs émissions soient là-dessus. Et c'est vrai que là, je crois que après un an, on a donné la possibilité aux émissions de le faire. Je pense que quasiment toutes les émissions ont accepté d'être diffusées sur ces plateformes, de leur propre, de leur plein gré.
Alors du coup, la question c'est, est-ce qu'il faut se battre contre les plateformes? Et si oui, comment?
Se battre, si on se bat, c'est un combat déjà perdu. On ne peut pas non plus entrer dans un modèle belliqueux dans lequel on voudrait supprimer un concurrent. C'est un peu aussi à nous de nous remettre en question, de continuer à faire ce qu'on sait faire, de aussi aller chercher des idées nouvelles, réinventer la radio pour la rendre toujours intéressante, toujours attirante pour les gens qui nous écoutent, et puis ceux qui ne nous écoutent pas encore et qui tomberont sur nos émissions un jour, ils diront « Ah, c'est cool, je vais continuer à écouter ». Donc non, on peut pas. Moi, je pense qu'il y a le combat. En tout cas, il est perdu.
Je suis assez d'accord sur tout ça. Après, ce qui est bien, je trouve, c'est quand même de se faire entendre, de se faire entendre d'autres voix. Bon, c'est ce qu'on essaie de faire modestement dans ce débat. Mais ouais, je trouve que la réflexion, elle mérite quand même d'être alimenté, qu'on travaille là-dessus, qu'il y ait, par exemple au niveau de la Ferrarock, qu'il y ait des conférences, des discussions là-dessus, faire un petit peu prendre conscience aux gens. C'est une question politique, hein, c'est aussi le capitalisme contre les citoyens, quelque part, quoi. Donc je trouve que c'est bien qu'on s'empare de ces questions, qu'on parle pas battu d'avance. Parce qu'il pourra y avoir d'autres trucs. Peut-être qu'ils vont se casser la gueule. Peut-être qu'il y aura des grands changements. Peut-être que, je sais pas. Bon, à voir, quoi.
Ouais, moi, je trouve intéressant quand même que nos émissions soient disponibles là-dessus, parce que c'est justement aussi proposer un autre contenu sur des plateformes. Et moi, je suis convaincu que finalement, il y a des gens qui ont pu découvrir RCV 99FM grâce à ça. En tout cas, j'essaie d'y croire, quoi.
C'est toujours la question un peu de l'entrisme. De toute façon, on n'est pas les seuls à se poser ces questions. Je veux dire, dans tout mouvement social, il y a comment tu changes le système ? Est-ce que tu t'inclus dedans ou pas ? Est-ce que tu le changes, t'essaies de le changer de l'intérieur ? Ou est-ce que tu essaies de confronter ? Enfin, je veux dire, on n'est pas... ce truc-là, cette tension-là, faut pas croire qu'elle est complètement isolée. On est complètement dans, pour moi, c'est ouais, c'est cette question politique du mouvement. On fait partie de ce mouvement social. On est dans ce contexte-là des grandes entreprises, encore plus resserrées qu'avant. Moins de gens qui possèdent encore plus et qui font profiter toujours moins de gens de la redistribution. Donc voilà quoi.
Voilà quoi. Rien à ajouter.
Eh ben on va terminer sur cette note-là alors les garçons. Donc c'est fini pour Fuck the Platforms Movement. On y reviendra peut-être l'année prochaine hein, si on fait une prochaine journée sans écran, Nico. Je pense qu'il y aura encore matière à débattre là-dessus. Merci Ben d'avoir été au téléphone avec nous.
Ouais, de rien. Moi, je voudrais juste vous remercier pour l'invitation. J'ai été super content de participer à ce petit bout de journée sans écran sur PFM. Et parce que je trouve l'idée géniale, en fait. C'est intéressant de se questionner sur notre dépendance aux machines, en radio. Plus que l'arrivée d'Internet, c'est l'arrivée de l'informatique qui a aussi bouleversé notre façon de travailler dans la radio. Donc voilà, merci. Moi, rien que le fait de m'en avoir parlé, de m'avoir proposé ça, ça m'a vachement fait réfléchir toute la semaine sur ma dépendance aux machines dans mon boulot au quotidien.
Eh bah, bien, plaisir partagé. On se retrouve peut-être bientôt. En attendant, allez faire un tour aussi du côté de RCV 99 FM à Lille. Merci Nico aussi d'avoir participé au débat.
De rien.
Et puis bah toi, on te retrouve toute cet après-midi et puis tout le temps hein, sur PFM de toute façon.
Ouais, on va sortir le magnéto cassette pour aller faire un micro-trottoir dans la rue.
Ouais. Qu'est-ce que tu nous proposes de...
Ciao.
Salut.
Salut Ben.
Alors, je sais pas si tu connais un titre de Gilles Scott-Heron qui s'appelle The Revolution Will Not Be Televised. C'est un titre qui date de la fin des années 60 ou début 70, je sais plus, qui parle un petit peu... Enfin, c'est une critique de la télévision. Mmh. Et donc, tous les 10 ans, il y a des gens qui reprennent ce titre, mais qui le remettent à une autre sauce. Et là, je crois que c'est un artiste anglais qui s'appelle Scuff, je pense qu'il avait repris ça au début des années 2010, et qui s'appelle The Revolution Will Not Be Online.
Ça marche, je connais pas, donc je vais écouter attentivement. You will not be able to follow on Twitter, fam. The revolution will not be a status update. The revolution will not have a MySpace profile, pictures on Flickr, or poke you on Facebook, because the revolution will not be online. The revolution will not be online, it will not be a blogspot.com, tag you in photos or get over 6 million hits on YouTube. You will not receive regular updates via text or instant messages featuring emoticons with emo haircuts. Nor will you LOL, because the revolution will not be online. The revolution will not be available to download via BitTorrent, LimeWire, Zshare, FileDump or Mega Upload. The revolution will not be available as an application for your iPhone. It will not be podcast, an MP3 on iTunes for 89 pence or playable on your iPod. And you will not be able to catch up later on BBC iPlayer because the revolution will not be online. The revolution will not be digitally remastered and transferred to high definition 1080i or P on Blu-ray. You will not be able to push your red button now. There will be no weekly evictions. You cannot vote by phone or SMS and lines will not be open, but who goes? You decide. The revolution will not be online. The revolution will not be a ringtone featuring Coldplay, Kanye West, Justin Timberlake, U2 or Mark Ronson. It will not be starring Matt Damon, Ben Affleck, Lindsay Lohan or Chris Tucker as a comedy CGI sidekick. It will not help you live for less, be professional yet affordable, or be the lighter way to enjoy politics, but it will do exactly what it says on the tin. The revolution will not be online. The revolution will not come with music. It will not give you super fast fiber optic broadband with download speeds of up to 50 megabytes with BT, Tiscali or Virgin Media. Nor will you be able to pay as you go, top up anytime with 3 minutes or follow on Twitter via your BlackBerry. And there will be no banner ads asking you to shoot the duck, smack the pony or spank the monkey because the revolution will not be online. The revolution blood will be live.